Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la prison. Et pour nous parler de ce sujet, nous sommes avec Nadia, auteure de « À ceux qui se croient libres » aux éditions L'Insomniaque en 2016, militant anticapitaliste, et Sam, membre de l'Assemblée contre l'état d'urgence et les violences d'État de Montpellier. Voilà, alors c'est lui qui va exceptionnellement animer cette émission.
Exceptionnel, tout à fait exceptionnel. Bonjour Paris. On voulait faire cette émission-là parce qu'on a été, comme un peu partout en France, confrontés lors du mouvement social à beaucoup de militants, de copains qui passent par la case prison. Et donc, ça nous a amené un peu à réfléchir autour de cette thématique-là. Et donc, je vais un peu introduire pour expliquer qui on est à nos amis parisiens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'AG contre l'état d'urgence et les violences d'État à Montpellier, elle s'est créée au début de l'état d'urgence. Et ça avait la spécificité d'être une assemblée, en fait. De ne pas être une interorga, de ne pas être... Et donc, ça a réuni quand même au départ beaucoup de monde. Et puis, au fur et à mesure du temps, la manière de percevoir les choses ont évolué. C'est passé d'une assemblée contre l'état d'urgence à une assemblée contre les violences d'État. Et donc, on a commencé à s'intéresser aux crimes policiers. Et puis, il y a eu le mouvement contre la loi travail. Et cette assemblée est devenue, de fait, une assemblée contre la répression. Donc, d'abord, sur ce premier point, je pense qu'on voudrait quand même essayer de mettre en avant quelque chose sur ces questions-là. Notamment aux auditeurs parisiens, parce qu'il y a eu on a eu écho des problèmes qu'il y a eu à Montpellier autour de ces questions-là. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'était une défense collective, et si possible, une défense politique. Après, chacun choisissait de se défendre comme il voulait, mais l'essentiel, le but du jeu, c'était de ne pas mettre dans la merde des copains pour en sauver d'autres. Donc ça, je pense que c'était quand même quelque chose qui a permis de maintenir un peu un cap, quoi. Parce que il y a eu beaucoup de répression. À Paris, il y en a eu bien plus, hein, donc on comprend que le cap était un peu plus difficile à tenir. Et surtout, là où, pour en venir directement au fait autour de la question de la prison, c'est que on s'est retrouvé avec une succession de personnes qui sont arrivées en prison. Et au départ, quand on est arrivé en prison, on disait libérez notre copain, il est où, machin, etc. Puis on s'est rendu compte que dans la prison, il y avait des centaines de types. On a commencé à réfléchir à ces questions-là, puis on s'est dit peut-être il y aurait quelque chose à penser autour de ça. Comment on passe d'une lutte quelque part? Est-ce qu'on limite notre solidarité aux entre guillemets militants politiques ou à nos copains? Ou est-ce que quelque part, une fois qu'on est devant la prison et qu'on soutient nos copains, est-ce qu'on glisse pas un message pour tous les prisonniers? Est-ce qu'on amorce pas une réflexion? Pourquoi on va en prison, qui va en prison, à quoi sert la prison, à qui sert la prison, enfin, toutes ces questions-là, on a commencé un peu à réfléchir à tout ça. Et on a changé progressivement la forme des slogans, on a changé progressivement la forme des tracts, des appels à manifestation, donc c'était plus uniquement axé sur la question des militants du mouvement social, mais c'était des appels à toutes les familles de prisonniers, tous les proches de prisonniers de Villeneuve-les-Maglones, qui est la prison donc à côté de Montpellier. Mais bon, en même temps, pour beaucoup de personnes, pour tout le monde dans cette assemblée, c'était une découverte, dans le sens où bah, on était parti d'une assemblée contre l'état d'urgence, puis contre les violences d'État, puis c'était devenu un truc anti-répression, parce que je viens d'expliquer. Et maintenant, bah, on était un peu... on avait envie de réfléchir à cette question de la prison, de pouvoir faire un travail qui soit autre chose que de l'entre-soi politique, etc., en disant « je soutiens mon pote », machin, etc. Et donc, on s'est dit, comme on n'avait pas forcément bah, beaucoup de billes, même si on avait peut-être lu, avoir eu des réflexions, des discussions, on s'est dit, bah, on va inviter des personnes qui... ben voilà, qui ont mené ces combats, qui ont porté ces réflexions, pour pouvoir un peu avoir un peu de grain à moudre, de savoir qu'est-ce qui avait été tenté, qu'est-ce qui avait perdu. Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée, ben voilà, contre l'état d'urgence et les violences d'État, machin, ben on a invité Nadia pour avoir une discussion autour de la prison et pour savoir comment nous, à Montpellier, on pouvait faire pour s'organiser face à ça. Voilà, donc ben... En fait, pour le plan de comment ça va discuter, on s'était dit que Nadia, elle allait commencer un peu à parler de cette expérience de la prison en général et qu'ensuite, on allait passer par un témoignage et qu'à la fin, on allait revenir sur une discussion un peu synthétique pour que l'émission puisse servir à tout le monde, quoi. Hein. Comment faire pour monter un collectif dans sa prison, dans sa ville de province où, voilà, au départ, c'était pas le cas, quoi. Voilà.
Bah, alors, ce livre, c'est un livre sur les luttes qui ont eu lieu dans les années 80, de 80 jusqu'à nos jours, les luttes qui se sont passées à l'intérieur de la détention et en soutien à l'extérieur. Bon, moi, je suis arrivée à la lutte contre la prison parce que mon frère, je pourrais même dire mes frères, mais plus précisément mon frère, a été en prison pour braquage. Donc du coup, étant mineur, donc c'est quelque chose voilà, qui m'est apparu à la fois nécessaire pour moi, pour comprendre ce qui était en train de m'arriver et de lui arriver. Et très rapidement, j'ai ressenti la nécessité de le comprendre avec d'autres copains et de comprendre plus globalement ce que c'était que cet outil de répression, cet outil d'anéantissement de l'être humain, et de comprendre à quoi il servait. Donc du coup, j'ai retrouvé un groupe d'amis qui, dans les années 80, c'était dans les années 86, se posaient les mêmes questions que moi. Eux étaient plus issus quand même c'était déjà des militants politiques, ou issus du monde plutôt libertaire, ou même des anciens Mao. Enfin bon, il y avait un peu tout comme ça, un groupe de gens qui... après la décrépitude des années 80, pensait qu'il y avait encore quelque chose à faire, qu'il fallait souffler sur les braises, et puis ben voilà, continuer la lutte, même si on n'était pas nombreux. Donc j'ai rejoint ces gens-là. Et on a, je pense que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois qu'on s'attelle à un sujet quel qu'il soit, c'est d'essayer de comprendre d'abord ce qui s'est fait avant, et sur le terrain de la prison, ben, il y a eu des luttes avant. Très rapidement, il y a eu quand même... les luttes pendant la guerre d'Algérie, les prisonniers du FLN qui étaient massivement incarcérés dans les prisons françaises ont mené des grèves de la faim extrêmement dures, puisque certains y ont perdu leur vie, pour obtenir et le statut de prisonnier politique, puisque pour le coup, eux, ils étaient en train de mener une lutte de libération, donc ils ne reconnaissaient pas les tribunaux de la France à juste titre, et aussi pour demander des améliorations de conditions de détention, ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs grâce à leur lutte. Donc du coup, ça a été quand même quelque chose de très important qui a mobilisé des militants, des avocats, des familles, bon, tout ça. Et... Les prisonniers qui étaient incarcérés dans les années 60 et 70 gardaient aussi la mémoire que quand on se bat, on peut obtenir des choses. Donc du coup, j'en ai rencontré hein, qui m'ont parlé justement de cette rencontre avec des prisonniers algériens. Et après, dans les années 70, il y a eu des très 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 grosses luttes à l'intérieur et également l'incarcération de militants politiques, entre autres maoïstes, de la cause du peuple, qui ont été incarcérés à l'intérieur de la détention. À l'extérieur, il y a eu des intellectuels, des collectifs, des secours rouges, qui se sont solidarisés pour demander, dans un premier temps, la reconnaissance du statut de prisonnier politique. Mais très rapidement, vu qu'à l'intérieur, il y avait énormément de luttes de prisonniers, on va les appeler sociaux. Du coup, assez rapidement, cette idée du statut de prisonnier politique s'est estompée pour arriver à une critique de la prison comme outil d'anéantissement, comme outil de gestion de la misère, de gestion de la différence, de la déviance ou de la révolte. Donc voilà, bon, ça c'est un petit peu Pour en revenir aux années 70, ça a été des luttes vraiment, vraiment importantes. Et je pense que quand on s'attaque à la question de la prison, c'est important de repartir de ces années-là. Parce que grâce à des intellectuels connus, il y a des trucs qui sont moins intéressants, mais il ne faut pas oublier quand même Foucault a serré la main de Mitterrand. Et ça, je ne l'oublierai jamais, même s'il a écrit des livres très, très intéressants qui peuvent encore nous éclairer sur la question anticarcérale. C'est en tous les cas une période où on ne se posait plus la question de on va défendre machin, on va défendre bidule, ou on va demander la libération d'une catégorie de prisonniers comme celle des prisonniers politiques par exemple, mais on s'est interrogé sur l'existence, la pertinence de l'existence même des prisons. Donc c'est un moment quand même assez charnière, assez intéressant. Il faut lire les écrits qui ont été produits à ce moment-là, mais aussi bien les écrits d'intellectuels que les écrits des prisonniers eux-mêmes. À l'époque, donc, il y avait le GIP, groupe d'intervention prison, donc qui était plutôt un groupe d'intellectuels français. Mais assez rapidement, il y a eu le CAP, groupe d'action prison, et là qui était vraiment pris en charge par des prisonniers en lutte. Peut-être la séparation n'était pas pertinente, mais bon. Et du coup, dans les statuts même, dans les revendications, aujourd'hui on est dans une période où il est de bon ton de dire qu'il n'y a pas de revendication. Quand même que c'est très très important de savoir pourquoi on se bat et sur quelle base. Donc du coup, il y avait tout un tas de revendications, et la dernière était la suppression de la prison. C'était quand même... parce que bon, après, on est là, oui, c'est réformiste, c'est révolutionnaire. Je pense qu'il faut peut-être relire des textes de Rosa Luxembourg ou d'autres pour faire la distinction entre ce qui est réformiste et révolutionnaire. Enfin, en attendant de faire la révolution, il faut quand même la construire, créer les outils pour. Et donc, du coup, il faut peut-être faire des collectifs, créer des outils et peut-être même émettre des revendications. Donc, du coup, les plateformes qui sortaient des prisons à cette époque-là, c'est-à-dire suppression des quartiers d'isolement, suppression du mitard et du prétoire, qui est une forme de jugement à l'intérieur qui est pris en charge par le directeur et les surveillants, même si aujourd'hui on a un avocat, il ne sert pas à grand-chose. Et puis il y avait, concernant le droit du travail, le droit d'association et de syndicalisation, il y avait tout un tas comme ça de revendications qui sont absolument exactement les mêmes aujourd'hui. Ça n'a pas changé, c'est pareil, on reprend la même plateforme et on recommence. Et donc du coup, moi je suis plutôt arrivée donc dans les années 80, et il se trouve que moi je suis arrivée à une période où il y avait énormément de luttes à l'intérieur. Mais vraiment quoi, enfin je veux dire, j'ai fait à la fin de mon bouquin une chronologie des luttes pour que les gens se rendent compte, parce que tu vois, quand je te dis il y a énormément de luttes, tu me dis ouais, ça veut dire quoi? C'est vraiment régulièrement les prisonniers montaient sur les toits. Régulièrement, quasiment toutes les semaines, il y avait des grèves de plateau ou des grèves de la faim, des refus de remontée de promenade. Il y avait des textes de qui sortaient de l'intérieur, ça se répondait, ça parlait, ça. Enfin, vraiment, et pas seulement à Paris, à Marseille, surtout sur l'ensemble du territoire, il y avait des luttes à l'intérieur. Et c'était très curieux parce que ça, c'est arrivé après l'arrivée de Mitterrand. Alors l'arrivée de Mitterrand, ça a été l'endormissement permanent, on y est toujours. Ça fait 35 ans que ça dure, ou même un peu plus. Ils ont réussi, les socialistes, à dépolitiser complètement tout, à récupérer tout ce qui pouvait être vivant pour l'intégrer dans des trucs qui allaient nulle part. Enfin, ils ont été très très forts. Mais juste pour dire que peut-être c'est une chance pour moi, c'est que les prisonniers n'ont pas été dupes. Et alors que l'ensemble des militants et des gens qui se battaient ont été complètement intégrés dans l'appareil politique institutionnel, les prisonniers se sont battus et ont été relativement seuls.
Parce que tu disais quand on a fait donc cette discussion hier, et ça intéresserait à mon avis les auditeurs, c'était que dans les années 70, il y avait, même si tu dis qu'il y a eu un maintien des luttes dans les années 80, que dans les années 70, il y avait des formes de lutte encore plus dures, parce que tu disais qu'il y avait une prison qui avait été détruite par les prisonniers. Enfin, ça nous a beaucoup impressionné. Intéressera les auditeurs de Radio Libertaire.
Il faut regarder les photos, parce qu'il y a un jeune réalisateur qui a repris les travaux de son père là, et qui a écrit et qui a fait un film qui s'appelle Sur les toits. Et du coup, on voit les images et les photos de, je crois que c'est la révolte de Nancy dans les années 74. Et ce qui était très impressionnant, si tu veux, c'est que les prisonniers montaient sur les toits, détruisaient complètement la toiture, balançaient les tuiles dehors sur les flics qui étaient en bas. Et du coup, après, tu avais toute la flotte et tout, mais toute la tôle était complètement détruite, quoi. Bon, il n'y a plus de tuiles trop sur les prisons, enfin, en tous les cas, les nouvelles, ça n'existe plus. Donc, du coup, c'était tout de suite très, très spectaculaire. Et je prenais cet exemple parce qu'en fait, dans les années 74, quand il y a 2-3 prisonniers qui sont passés en procès à ce moment-là, et ils ont pris 6 mois ferme pour destruction. Chose. Non, mais à l'époque, c'était déjà dément.
C'est énorme,
ouais. Ah, ouais. Ah, mais à l'époque, ouais, ouais. Les gens criaient au scandale. 6 mois ferme pour cette révoltée, tu rigoles, toi, ça se fait pas, c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des peines. Là, il y a eu pas mal de mutineries quand même, mais ça ne se sait pas assez. Et les mecs, mais immédiatement, alors qu'ils avaient rien cassé, tu vois. Bon, à chaque fois, il faut prendre quand même un petit peu en otage un maton pour avoir les clés, pour ouvrir les portes et éventuellement quelques cellules. Mais c'était jet de bouteille d'eau et jet de savon, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment bonjour. Ben oui, mais c'est 18, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est des peines immédiatement incroyables qui viennent se surajouter aux peines déjà existantes, quoi. Donc, du coup, se battre à l'intérieur, il faut qu'on le sache, nous, à l'extérieur, c'est une prise de risque énorme. D'abord pour ta vie, parce que les hérisses, qui sont les espèces de bacs intérieurs, le GIGN intérieur, il faut imaginer qu'ils sont dotés d'exactement les mêmes armes hein, que ceux que j'ai cités précédemment. Et du coup, on peut imaginer ce que je disais. Moi, j'ai du mal à l'imaginer, une cour de promenade avec des flashballs, des grenades de désencerclement, des gaz lacrymogènes et compagnie. Enfin, je veux dire, c'est une boucherie, quoi. C'est tout simplement une boucherie. Donc, du coup, c'est vraiment une prise de risque énorme. Et nous, il faut qu'on le prenne en considération. C'est-à-dire que nous, on est dehors, on a la possibilité de parler, de faire savoir tout ça. Et du coup, il faut qu'on... Enfin, la moindre des choses, j'ai envie de dire, au minimum, c'est déjà de faire ce travail-là. Et éventuellement, si on est un petit peu plus balèze, pouvoir manifester, faire des actions pour pouvoir se solidariser. Parce que la prison, ça ne regarde pas que les prisonniers. Mais... ça regarde l'ensemble de la société. Souvent, on prenait cet exemple de dire que la prison, c'est le miroir de la société. Et quand on regarde la prison, on se regarde soi-même. Et que plus ça va, plus les gens sont susceptibles d'aller en prison, même le lambda moyen. Parce qu'il va picoler et qu'il va se retrouver à avoir un accident. Ou même pour la deuxième fois qu'il a picolé, il se retrouve à l'intérieur. Pour un outrage, parce que t'en peux plus, un flic te provoque, tu craques, tu lui dis d'aller se faire foutre. tu te retrouves avec une inculpation. Ça peut aller très très vite aujourd'hui d'aller en prison. Donc du coup c'est... Et puis ça regarde aussi un projet de société. C'est-à-dire que la population carcérale, elle est passée de 45 000 prisonniers dans les années 70 à 70 000 aujourd'hui. Et elle suit la courbe du chômage exactement dans la même proportion. Donc c'est vraiment la société telle qu'elle est qui rejette toute une partie de sa population vers des boulots précaires, une absence de travail, de revenus, de logements, enfin qui précarise complètement une population de plus en plus grande, qui du coup est obligée de se démerder tant bien que mal comme elle peut, en bidouillant, en businessant, enfin bon, ouais. Et aussi parce que ça fait péter les plombs d'être pauvre tout simplement et de ne pas avoir de perspective de vie. Mmh. Et du coup, comme perspective, la société telle qu'elle est aujourd'hui nous propose l'enfermement, l'isolement. Bon, il y avait un mec qui avait été en hôpital psychiatrique, mais c'est vraiment quelque chose aussi qui est important, puisque aujourd'hui, les mères ou les familles peuvent demander des placements. Donc, il y a de plus en plus de placements en hôpital psychiatrique. Enfin bref, rejeter en tous les cas, c'est-à-dire gérer par l'enfermement la misère que la société génère. Et après, le remettre sur le dos des gens eux-mêmes. Ah, c'est de ta faute. Ah ben, t'as pas su t'insérer, t'es un loser, un has-been, et les plus faibles dégagent, quoi. Donc on est vraiment dans cette société de compétition où est rejeté en prison, entre autres, les plus fragiles ou ceux qui veulent pas absolument s'adapter dans ce monde pourri qui est en train de nous déglinguer complètement, quoi.
Et tu disais, il y avait une... on a commencé à l'aborder, mais... une transformation un peu du paysage carcéral, des gens qui étaient enfermés depuis les années 70, et maintenant, quoi, et bah déjà, il y en a deux fois plus, quoi, alors qu'on n'est pas deux fois plus nombreux. Bon, ça, c'était le premier point. Tu t'as dit aussi qu'il y avait, que ça suivait un peu la question de l'augmentation du chômage, de la précarité, de la misère. Mais est-ce que tu peux un peu détailler, tu vois, sur ces nouveaux types de personnes qui arrivent en prison et qui dans les 70 n'étaient pas en prison, quoi, qui étaient des gens qu'on mettait pas en...
Alors tu vois, par exemple, c'est ce que je disais la dernière fois, je pense que c'est vraiment important de quand on s'attaque à un sujet de savoir de quoi on parle. Je pense que ça doit faire l'œuvre d'une enquête. Alors dans les années 70, il y avait très très peu de chômage. Je veux dire, tu pouvais même dire à ton patron, va te faire foutre, je dégage, tu claques la porte, tu y retournes pas le lendemain, t'en as rien à cirer. Parce que tu sais que 15 jours après, si t'as envie, tu retrouves du boulot. C'était la situation des années 70, quoi. Je veux dire, quand tu bossais 3 mois, t'avais 2 ans de chômage. Non, mais tu vois, on n'était pas du tout dans le même délire qu'aujourd'hui, quoi. Faut voir la situation. Donc, si tu veux, il y avait quand même à la fois toute une, effectivement, une délinquance de pauvreté, mais il y avait aussi une délinquance de choix, c'est-à-dire de gens qui refusaient cette société et qui, bah, du coup, braquaient. Bon, il y avait malheureusement beaucoup de proxénètes, puisque c'était une manière de gagner sa vie. On appelait ça le pain de fesses et ils étaient très mal vus à l'intérieur de la détention. Mais bon, c'était plutôt, tu vois, des gens comme ça. Donc, du coup, avec des valeurs spécifiques à ce milieu-là. Et j'en parlais, c'est-à-dire que, par exemple, tu pouvais pas, balancer. C'était un truc inconcevable. Enfin, bon, après, il y a toujours, hein, là, je te parle en grand trait, il y a toujours des enfoirés, puis il y a toujours des passe-droits, hein, dans la vie, c'est toujours comme ça. Mais de fait, tu ne pouvais pas balancer. Si tu étais une balance, tu étais forcément exclu, voire tu pouvais même perdre la vie pour ça, hein. Donc, c'était vraiment, il y avait, tu vois, des valeurs et des choses qui étaient extrêmement précises. Et entre autres, quand tu étais à l'intérieur de la détention, si tu étais un voyou, un mec, quoi, un mec bien, un délinquant d'honneur, eh ben, tu ne pouvais pas refuser de participer à des mouvements de lutte. C'était un truc impossible. Je veux dire, tu avais un copain qui était au mitard, s'il y avait un mouvement, tu devais y participer. Tu ne laissais pas les copains sans mandat. Tu vois, voilà quoi. Et puis si tu pouvais, tu les faisais évader. Voilà, ouais. Enfin, il y avait des trucs comme ça, ça faisait partie, si tu veux, des valeurs comme ça. Et c'est vrai qu'à partir des années 80 et quelques, est apparue toute une nouvelle délinquance, une délinquance économique, parce que le chômage, il y a eu 1 million de chômeurs au début des années 80, donc ça a commencé à devenir très très important. Et il y a aussi vachement le business de stupéfiants, quoi, qui est venu remplir les prisons françaises. Et bon, la mentalité de petits commerçants, je m'excuse, mais enfin bon, tu vois, c'est pas ce qui se fait de mieux, quoi, dans le genre de rapport, quoi. Donc bon.
C'est pas la même chose que les braqueurs.
Mais c'est pas du tout la même chose que les voleurs, j'ai envie de dire. C'est pas du tout les mêmes valeurs, la même façon les gens ont de se lier les uns aux autres. C'est vrai que dans le commerce, c'est quand même un peu chacun la gueule, tu vois. Donc c'est complètement autre chose. Et puis de toute manière, il y a eu également aussi une dépolitisation, que ce soit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui se ressent du coup à l'intérieur. Moi je me souviens, tu vois, par exemple, je prenais cet exemple parce qu'il m'a vraiment super marqué. Et quand dans les années 86, à la santé, 400 prisonniers refusent les plateaux en soutien aux initiatives anti-loi Pasqua, parce que tu avais les JALB, les jeunes arabes de Lyon et sa banlieue qui avaient entamé une grève de la faim illimitée pour protester contre le projet de loi du gouvernement concernant les émigrés. Bon. Je veux dire, quant à ce genre de... Tu vois, ça veut dire que les mecs qui rentraient en prison, sur leur quartier, il y avait quand même des luttes. Il y avait, tu vois, il y avait quand même un petit peu d'organisation, des mouvements, etc. Et puis, tu avais un tissu associatif, il y avait des choses qui se passaient. Ceux qui rentraient en prison, ils étaient quand même un petit peu politisés. Là, aujourd'hui, c'est la cata, quoi. Donc...
Ouais. Et ce que je voulais te demander aussi, c'était parce que, ouais, là, on a parlé un peu de peut-être de l'atmosphère qu'il y avait dans les tôles, du profil un peu des gens, mais effectivement, il y a eu de plus en plus de personnes qui sont entrées, quoi. Donc, tu as eu est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Tu avais parlé aussi du nombre de personnes maintenant qui sont en tôle pour des histoires de caisse, enfin, des histoires de conduite sans permis.
Ouais, des délits routiers, tu m'étonnes. Tout le monde sait ce que c'est qu'un flot. C'est pas compliqué, hein. Donc au bout de 10, t'as plus de permis, donc et quand t'as pas de voiture dans certains endroits, tu peux pas travailler, donc tu fais quoi? Tu prends ta caisse et tu vas au boulot avec, et tu te fais arrêter, tu vas en prison.
Il y en a plein en tôle.
Et il y en a plein, des trucs comme ça, et c'est dément, quoi, c'est n'importe quoi. Mais les mecs, ils pètent les plombs en tôle, ils comprennent rien de ce qui leur arrive. C'est n'importe quoi aujourd'hui là. Enfin, je veux dire, je ne légitime aucune. Je trouve que la prison n'est pas adaptée pour n'importe quel type de délit. C'est une aberration que de, quand quelqu'un commet une faute, de lui taper dessus. C'est n'importe quoi. Même les chiens, ça les rend dingues, tu vois. Donc les hommes et les femmes, bien évidemment, pareillement. Donc c'est une punition absurde. C'est une punition qui génère de la souffrance et de l'incompréhension et de la haine. C'est n'importe quoi, quoi. Mais ce que je disais, si tu veux, c'est que souvent on pense aujourd'hui que, tu vois, il y a énormément de délits, que tu ne peux pas sortir dehors parce que, bon, il y a toute une mise en scène médiatique, etc., qui veut que tu ne peux pas sortir dehors sans te faire agresser, violer, tabasser. Enfin, tu vois, on vit dans un monde terrifiant. Donc, alors que la réalité, et pourtant les gens devraient partir de leur propre réalité, ça peut arriver de te faire à emmerder, c'est évident. Enfin bon, c'est quand même, somme toute, assez rare. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a plutôt un recul des crimes. Là, je parle des homicides, des trucs un peu graves, tu vois. Il y en a de moins en moins, statistiquement. Mais par contre, il y a de plus en plus de prisonniers. Donc le truc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu une... Alors, bon, il y en a qui disent que la société, supporte de moins en moins la violence et l'illégalité. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça.
C'est vrai que c'est assez abstrait.
Fassin, il sort ça. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je connais tout l'appareil idéologique de propagande qui nous fait peur et qui nous apprend à... tu vois, mais... Et donc, du coup, la société aurait peur et se sentirait en un sentiment d'insécurité. Ce sentiment, il est créé, quoi, quand même. Tu vois, il ne vient pas de nulle part. Et du coup, ça légitimerait, si tu veux, des punitions plus graves, quoi, ouais, et supplémentaires. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a eu des créations de nouveaux délits, on est tous au courant, les délits routiers, les outrages et rébellions. Il y a 10 ans, tu disais enculer un keuf, éventuellement tu te faisais tabasser, c'est ce qu'on disait. Voilà, ça pouvait se régler comme ça, mais en tous les cas, t'allais pas en tôle, quoi, je veux dire, pour ça, tu vois. Il n'y avait pas de délit de ce type. Donc, il y avait aussi, tu vois, le bruit dans les halls, tu peux aller en taule quand tu ne payes pas ton billet de train. Enfin, il y a tout un tas de nouveaux délits et tout un tas de délits qui existaient déjà qui ont vu leur peine augmenter, mais énormément. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas, avant, tu allais te prendre maximum 5 ans pour tel type de délit. Aujourd'hui, tu vas prendre 10. Tu vois, c'est dans les textes, il y a vraiment une augmentation de la durée des peines avec tout un tas de trucs. Bon, mais ça, c'est toute une tambouille interne, du coup, que les gens ne comprennent pas très bien. Et du coup, tu vois, mais avec la création de l'association de malfaiteurs en 96, qui fait que tu vas être condamné, par exemple, parce que tu as fait partie d'une association de malfaiteurs, c'est-à-dire un groupe de gens qui ont déjà récidivé et que tu vas avec eux organiser un truc. Donc, pour ça, tu vas être condamné et tu vas être condamné pour les faits.
Okay. Ah ouais.
Tu vois, tu vas condamner toi. Et tu peux être condamné pour association de malfaiteurs tout seul maintenant.
Ah, c'est bien sûr.
Pour des trucs de terrorisme. Quand même, déjà, c'est balèze. Et en plus, tu peux être condamné pour association de malfaiteurs sans avoir commis aucun délit. Parce que tu as eu l'idée, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans le droit français, ce qui était condamné, c'était les faits.
Ouais.
Maintenant, c'est les idées. C'est les présomptions. C'est.
Ouais, dans le même délire, il y a les condamnations pour participation à un attroupement en vue de
casseux
de mobilier urbain.
Voilà.
Et à pire encore, déjà, tu n'as pas le droit d'y participer parce que les gens apparemment autour de toi, ils sont en vue de casser les choses.
Et tu le savais d'ailleurs.
Et tu le savais d'ailleurs. Voilà, et en plus de ça, il y a la non-désolidarisation qui est en train d'être mise sur la table.
Exactement.
C'est-à-dire que non seulement
il ne
faut pas y aller, mais en plus, il faut dire arrêtez, arrêtez tout, sinon tu vas en taule.
Ouais. Non, c'est un délire parce que... Non, mais c'est vachement grave. Hein.
Ouais.
Parce que ça veut dire que maintenant, c'est même le fait d'imaginer... Tu vois, je pense que ce que l'État essaye de faire vraiment, c'est de tuer dans l'œuf l'idée même que les choses pourraient se passer autrement.
Mmh.
Et on le voit vraiment même dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire que, par exemple, quand tu vas chercher un taf, c'est pas juste tes compétences qui sont évaluées. C'est ta manière d'être, de penser, d'adhérer à la société, tu vois. C'est ça qui est évalué. Donc là, je veux dire, la compétition est tellement forte avec le nombre de chômeurs qu'il y a, bah que du coup, tu vois, les critères, c'est bientôt les astres, la numérologie, et ça existe déjà, tu vois, c'est un peu le truc. Donc du coup, bah, toute cette façon de concevoir les choses, bah, elle va emmener de plus en plus de gens en tôle. Et il y a un aspect que forcément, bah, les gens qui ne sont pas confrontés à la prison ne connaissent pas. Mais en fait, quand tu rentres en prison dans les années 70, les prisonniers, justement, grâce à leur lutte, avaient réussi à obtenir tout ce qui est réduction de peine. Et donc, du coup, avant, tu avais 3 mois de réduction de peine tous les ans, si tu te comportais, bon, voilà, quoi, pas trop mal. Plus, éventuellement, 2 ou 3 mois pour de réduction de peine pour examen. Donc, ça fait que, du coup, bon, tu vois, tu pouvais, même si tu avais pris une peine qui était beaucoup plus faible que celle que tu prends aujourd'hui, 5 ans, hop, tu vois, 3 mois, plus un peu des examens et tout ça, et tu pouvais quand même sortir assez rapidement, quoi. Alors que, même si c'est toujours trop long, hein, on est d'accord, hein, mais là, aujourd'hui, c'est 2 mois par an, et c'est un crédit de réduction de peine, tu vois, un peu les enfoirés, parce qu'ils ont tellement...
Il faut expliquer ça,
alors,
ça, c'est
compliqué. Le truc, c'est que dans la vie de tous les jours, maintenant, tu vois, et aux États-Unis, c'est un bon exemple, parce qu'en général, on suit les États-Unis derrière bêtement, les enfants sont déjà, ont des dettes à leur naissance. Donc, tu vois, parce qu'il va falloir payer les examens, les études et tout ce qui s'ensuit. La vie, notre vie, est de plus en plus à crédit. Ouais. Et on a des dettes, donc on a des dettes, on est redevable de, à la société, aux banques, etc. Et à l'intérieur, c'est pareil. Mais comme les gens, ils n'ont pas d'argent, il faut quand même jouer sur un autre truc, c'est la liberté. Donc, c'est, je te donne 2 mois, mais ces 2 mois... Quand tu vas sortir, on va te surveiller encore pendant ces 2 mois. C'est-à-dire qu'avant, bah, on te les donnait, et quand tu sortais, tu sortais.
Ouais.
Alors que maintenant, eh bah, tu as 1 an, 2 ans, où tu es encore surveillé par la société, quoi, par l'État, pour voir si tu ne fais pas de conneries. C'est-à-dire vraiment, l'idée, c'est de maintenir sous contrôle, le plus longtemps possible, le plus de gens possible.
Ouais. Et t'expliquer un peu la même chose aussi avec les questions du bracelet électronique et tous les trucs de substitution de peine.
Alors, le truc, si tu veux, c'est que, bon, alors pour le bracelet, c'est un peu comme le tige, hein, c'est que les travaux d'intérêt général. Alors, quand tu écoutes, voilà, quand tu écoutes les soi-disant progressifs, les gens de gauche, alors ils font des tas de livres super intéressants, quoi, moi je vous conseille de lire, ça peut être pas mal. Mais alors, à la fin, ça part en sucette. Parce que, alors, comme proposition, ils font un état des lieux catastrophique, les prisons,
la honte
de la République, de toute façon, c'est pareil, la honte de la République. Machin, et puis alors bon, tu lis leur truc, t'es là, putain, ouais, c'est vrai, ils ont raison, alors là, c'est super dur. Puis alors, à la fin, la seule chose qu'ils disent au mieux, c'est peine alternative. Alors, ouais, à l'incarcération, tu dis waouh, putain, le cum, ah, qu'est-ce qu'il veut dire par là, tu vois. Alors en fait, c'est les travaux d'intérêt généraux. Alors, les travaux d'intérêt généraux, maintenant, on le sait, tout le monde le sait, c'est une peine supplémentaire, c'est-à-dire ça n'a jamais empêché personne de ne pas aller en prison, c'est juste une peine en plus, quoi. Avant, tu prenais 3 mois avec sursis, maintenant, ou tu prenais même rien, et puis maintenant, tu prends 15 jours, 1 mois, 2 mois de travaux d'intérêt général. Donc, du coup, c'est une peine supplémentaire, et les bracelets électroniques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avant, un prisonnier, il allait sortir en conditionnel, parce que c'est à la fois pour les petites peines et pour les grandes peines. C'est-à-dire, en fin de peine, tu as fait tes 15 ans, tu vois, tu vas sortir, on t'a enfin donné une conditionnelle. Et il faut dire quand même qu'il y a 62% de prisonniers qui sortent à la fin de leur peine. Donc, les conditionnels, c'est du rarissime. Ouais, ouais, ouais. Ils nous bassinent avec ça, mais alors, ça existe quasiment pas, quoi. Ouais. Bon, bref, donc, le mec, il arrive enfin à sortir en conditionnel. Et ben on va lui dire, ah bah ouais, bah voilà, bah écoute, bah tu vas avoir 1 an de bracelet. Mais 1 an de bracelet, c'est pas rien, quoi. Ça veut dire que t'es obligé de rentrer chez toi à 6 heures le soir, pas sortir tous les soirs, être au frais bah, de ta compagne, de ta famille, qui te donne à manger, qui paye tes fringues. Tu vois, donc c'est une peine pas chère pour l'État, hyper contraignante, qui n'existait pas juste il y a 5 ans. Et tout le monde dit, ouais, bracelet, super. Alors, bien sûr, un prisonnier, on lui propose un bracelet, il ne va pas dire non. Surtout quand il s'est tapé 15 ans d'enfermement, ou même 5, tu vois. Mais ça n'empêche que c'est quand même une dégueulasserie, quoi. Donc, bon, voilà pour le bracelet. Et puis alors, bon, Moi, je ne vais pas dire du bien de Madame Taubira, qui est très certainement une personne extrêmement lettrée, intellectuellement très, très, voilà, et très riche. Hein. Elle est sûrement plus intelligente que beaucoup de nos hommes politiques, donc brillante. Mais ceci dit, elle a fait exactement la même merde que tous ses prédécesseurs. Elle a repris exactement les mêmes points que Dati, qui est quand même, qui s'est illustré par à la fois son aspect répressif et sa bêtise, mais elle a repris exactement la même chose en le dotant de financement et de possibilités d'extension. Les peines probatoires, il y a 70 000 prisonniers en France, et ces dernières années, on a vu les peines à l'extérieur, c'est-à-dire la prison dehors, devenir quelque chose de plus en plus important. C'est-à-dire les peines probatoires, c'est tu fais ta peine à l'extérieur. Mais il ne faut pas croire que c'est rien, quoi. Avant, on te filait du sursis. Si tu récidivais pas, bon, bah voilà, quoi. Basta, quoi. Alors que là, maintenant, c'est tu dois aller voir le psy, tu dois trouver un travail, tu dois pointer à ton commissariat.
Ça s'appelle obligation de réinsertion, déjà, donc ça porte bien son nom. Hein.
Ouais, et puis en plus, en sachant que c'est même quand on a envie, parce qu'il y en a plein qui en ont envie, hein. Mais ils n'y arrivent pas, hein, parce que du taf, il n'y en a pas. Donc du coup, même pour ceux qui veulent, c'est quand même une vraie galère.
Mais en fait, pour essayer d'expliquer la logique, tu complèteras. Hein. Mais c'est de dire, en gros, tu as les bracelets électroniques. Au départ, le mec, quand il sortait de tôle, ben, il n'avait rien. Maintenant, il a des bracelets électroniques. Ou il avait une courte peine. Les mecs qui étaient au sursis, on mettait du sursis. Mm-hmm. Et c'était des peines probatoires. Maintenant, c'est devenu des peines probatoires. Mm-hmm. Et que le mec qui avait rien, en fait, s'est remplacé par des tiges.
C'est-à-dire des tiges, des peines probatoires.
Tout ce qui était rien, c'est devenu quelque chose. Et tout ce qui était de la ferme, c'est resté de la ferme.
C'est des peines supplémentaires. Ouais. Ce n'est pas du tout des peines alternatives à la détention. Mmh. On nous a menti.
Nous a menti.
Voilà. Donc, et ça représente à peu près 200 000 personnes en France quand même. Donc c'est quand même pas rien. Et là, le truc, là où ils galèrent, c'est qu'il faut créer des SPIP, il faut créer des juges d'application des peines, il faut créer, tu vois, tout ce staff qui va suivre ces gens-là d'une manière efficiente. Et là, ils sont en train de le mettre en place, quoi. Ouais. En sachant, et bon, ça, ce serait bien aussi de faire un petit peu des enquêtes par rapport à ça, c'est que ces gens qui sont sur un quartier, t'as le maire, les flics du quartier, et même les HLM, enfin tout un tas de gens qui sont au courant de qui est cette personne, son dossier, tout ça. Ça veut dire que plus ça va, plus vraiment la société, au plus près de l'individu, tu vois, va le cerner, le connaître, le surveiller, quoi.
Ouais, c'est sympa.
On vous avait dit que c'est joyeux.
En général, les émissions sur les prisons, c'est...
Ouais,
ah, ça tue.
Et pour revenir un peu à une discussion un peu sociale et tout, qu'est-ce que toi t'aurais envie de dire, Nadia, avec tout ça aux gens qui sont un peu qui ont eu un peu la même expérience que nous, quoi, c'est-à-dire qui sont intéressés à la question de la répression parce qu'ils avaient des copains militants qui étaient tombés en prison. Et comment amorcer un peu cette réflexion là et surtout quel discours porter, quoi, de dire est-ce que on va arriver, on va dire ouais, feu à toutes les prisons, nanana, des trucs un peu dogmatiques et tout. Enfin, je sais pas du tout, tu vois, mais qu'est-ce que toi t'auras envie de dire aux gens qui sont un peu dans notre situation est-ce qu'on met en avant un discours social? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait rattacher pour s'expliquer pour expliquer aux autres qu'il y a un problème avec la chose, quoi.
De toute manière, il y a un truc qui est sûr, c'est si tu relis pas les problématiques aux politiques, aux sociales et à l'économie, t'es à côté de tes pompes.
Ouais.
Moi, c'est clair, hein, tous les discours identitaires, machin, tout ça, ça me gonfle.
Ouais.
Mais vraiment, quoi. Parce que je trouve, si tu veux, que là, dire aujourd'hui en prison, c'est des pauvres. Ouais. C'est des gens pauvres qui sont dedans. Je veux dire, ça touche toute la misère sociale. Alors après, évidemment, les premiers touchés par les fermetures d'entreprises et les gros secteurs productifs industriels sont effectivement les migrations. Donc ça, c'est une évidence. Et donc, du coup, qu'il y ait énormément de fils ou de petits-fils d'ouvriers au chômage, qui se retrouvent dans les prisons issues de l'immigration, c'est aussi une réalité qu'il faut arriver à expliciter, il faut arriver à dire d'où ça vient tout ça.
Et donc en gros tu dis, c'est autour pour toi des questions, mettre en avant la question de la pauvreté, de mettre en avant la question des raisons sociales de la prison.
Carrément.
Qui est pour toi le plus...
Pour moi c'est extrêmement important parce que là aujourd'hui, depuis les années Mitterrand j'ai envie de dire, il y a une dépolitisation, une individualisation qui nous a tous bouffés, hein. Je veux dire, on n'y échappe pas, hein. Je veux dire, c'est un combat d'y échapper.
Ah, nickel,
et donc, c'est pas simple, mais il y a une individualisation. Et la meilleure façon de briser cette individualisation, cette séparation, c'est de trouver des points communs, des choses qui nous unissent. Et ce qui nous unit, c'est de vivre la même merde en tant que prisonnier ou en tant que salarié ou en tant que précaire ou en tant que chercheur de logement et qui galère, en tant que tout ça. Et puis, en tant que gens qui ont envie de dire des choses et qui ne sont pas entendus. Je veux dire, il y a aussi cette notion-là. Il n'y a plus d'espace pour s'exprimer, pour s'organiser. On est complètement... on est méprisé, on est humilié, on est... on n'existe pas. Voilà. Bon, il y a plein de... je pense qu'il faut revenir à la question sociale, la question de classe sociale.
Ouais.
Je pense que c'est primordial si on veut se battre contre ce système-là.
Ouais, voilà,
non, aussi. Mais contre ce système qui génère les prisons.
Toi, tu dis en gros que... plus il y a une misère sociale qui monte, plus, quelque part, la manière de gérer la misère sociale, aujourd'hui en tout cas, ça va être l'augmentation des prisons. Quoi. Et que c'est...
Ça va être le contrôle à l'extérieur
qui
existe, les caméras, les fichages, la CAF, tout ce que tu veux, la sécu, machin. Et puis pour ceux qui passent à travers et qui ne comprennent pas le message, il restera à la prison, quoi. Donc, et ça, c'est quelque chose qui...
Plein de bonheur.
Parce que se battre contre la prison, c'est se battre contre ce système.
Et oui.
Tu vois, tout est lié. Et c'est pour ça que je pense que la question de la prison et de la répression, elle doit être amenée aussi dans les AG de lutte ou dans les coordinations interpro ou inter je sais pas quoi, tu vois.
Ouais.
Parce que cette question-là, c'est les enfants des ouvriers aujourd'hui qui se retrouvent dans les tôles. Il ne faut pas l'oublier, c'est nos amis, c'est les gens qui n'ont pas réussi à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas papa, maman, bon, tout ça, c'est aussi cette réalité. Et puis, c'est des gens qui gueulent et qui se battent contre ce système. Juste vite fait, puis comme ça, après, je te passe la parole parce que vraiment, je suis venue, c'est parce que je trouve ça toujours intéressant de parler de ça. Et puis parce que moi, j'ai animé une émission de radio pendant 25 ans anticarcérale, donc c'est vrai qu'avoir un point de vue un petit peu historique en mouvement, c'est toujours intéressant. Et du coup de le transmettre, c'est cool. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que vous posiez cette question de comment faire, mais déjà de vous la poser, quoi.
Ouais.
Et donc du coup c'est pour ça que je trouvais intéressant. Et j'ai trouvé particulièrement regrettable, sauf pour dans votre cas regrettable, que suite au mouvement contre la loi travail, autant il est devenu une évidence que les flics c'est le moyen pour l'État de garantir ce qu'il a et de le perdurer, de le faire progresser. Mais de la même manière, j'ai trouvé dommage qu'on n'aborde pas la question de l'institution judiciaire et de la prison, qui sont les mamelles, les différentes phases des institutions de l'État qui le garantissent, quoi. Et du coup, ces deux choses ont été relativement oubliées et il est temps peut-être de se remettre à y réfléchir. Mais y réfléchir, comme tu le disais en introduction, pas seulement pour nos potes, mais d'une manière générale, à quoi sert la prison, qui y va et aussi comment on peut la foutre en l'air. Comment on peut créer une société qui se débarrasse de cet outil barbare. Je veux dire, devenons humains, quoi. Enfin, humains, même si ça ne veut rien dire, parce qu'on a du mal et du bon en nous.
Ouais, barbare.
On le sait bien, quoi. Les barbares non plus. Mais essayons de créer une société qui pourrait imaginer autrement, en tous les cas, la question de la résolution des problèmes.
Les Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas. J'ai fait 6 pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Pimpon, pimpon. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, des 128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête,
et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent,
et le maton
ton corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête,
et le maton
te guette. Première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale. Goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, de grillage et un barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe. J'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag. Les jours se répètent,
et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent,
et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête,
et le maton
te guette. Il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de paupières contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule incamée, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin pactage, libéra pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeux et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent,
et le maton
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreau, porte bloquée, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête,
et le maton te
guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton te
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui te soutiennent pour pas que tu pètes les plombs. Tout le temps, tant de hargne, tout le temps, tant de larmes. Une pensée aux disparus, une pensée aux enfermés. Bois d'Arcy, Onifrène, Fleury, Santé, Nanterre, les Baumettes et les autres zonzons. Parloir, courrier, tourné, c'est la merde, tu le sais. Dans tous les quartiers, quand le maton te guette.
Quand le maton te guette.